Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
Et on vous retrouve, Franck Ferrand, en direct et en public depuis les locaux du Parisien à l'occasion du 70e anniversaire du quotidien. Bonjour Franck.
Bonjour Céline, bonjour à tous et bienvenue au cœur d'une histoire en train de s'écrire. Bienvenue au sein de la rédaction du journal Le Parisien qui fête en ce moment ses 70 ans. Alors évidemment nous sommes à la radio, j'adorerais pouvoir vous montrer ce que nous avons sous les yeux. Imaginez un espace immense sur deux étages de style très contemporain dans les tons de turquoise et de vieux rose. Un espace ouvert, lumineux, empli de bureaux où s'activent, comme dans une sorte de grande ruche, les abeilles qui butinent les informations, qui bourdonnent d'actualité. Europe 1 a installé son studio volant dans le cœur même du journal, à Saint-Ouen, à l'épicentre d'un complexe qui fait 5 hectares et qui comprend non seulement, bien entendu, tous les bureaux de la rédaction, les bureaux administratifs, etc., mais tout ce qui permet de faire un journal, à commencer par deux belles imprimeries. De grandes imprimeries. Je disais pour plaisanter en arrivant ce matin, car nous avons assisté à la conférence de rédaction, c'était passionnant, on va y venir tout à l'heure, je disais qu'il ne manquait finalement pour compléter l'intégration verticale de ce journal que deux choses, une fabrique de papier à un bout et un kiosque à journaux tout à fait à l'autre bout. Le miel qui sort de cette ruche au quotidien, c'est un journal qui, sous ses diverses éditions en Ile-de-France et en région, est lu chaque jour en France par plus de 2,5 millions d'habitués. Vous faites peut-être, certains d'entre vous à coup sûr, font partie bien sûr de ces habitués. Voilà un cas unique dans la presse française. Cette émission spéciale 70 ans du Parisien, c'est aussi l'occasion pour nous de raconter l'incroyable aventure de tous ces journaux qui ont été créés, pas tous ex nihilo, mais pour une grande partie d'entre eux, en tout cas, qui ont été créés à la Libération. Un cas à part dans l'histoire de la presse. Nous y viendrons tout à l'heure parce que ça reste une émission d'histoire et on va vous faire partager, bien entendu, ces moments. C'est tout un aspect dont on ne parle quasiment jamais. Vous allez voir que dans le cours de cette émission, à mon avis, vous allez apprendre bien des choses.
Europe 1. Au cœur de l'histoire.
Franck Ferrand.
C'est le directeur général du groupe Le Parisien qui nous reçoit dans ses murs. Nous sommes vos invités. Jean Ornain, bonjour, merci beaucoup.
Bonjour, bienvenue.
C'est très gentil d'avoir vraiment mis les petits plats dans les grands. On est très bien reçus. Je disais à l'équipe tout à l'heure qu'on a rarement eu un aussi joli studio pour une émission hors de la rue François 1er.
C'est vrai qu'il est beau et Le Parisien est... La rédaction du Parisien particulièrement est toujours très accueillante.
Oui. Alors c'est ici d'habitude, autour de cette grande table qui nous sert aujourd'hui de table de radio, qu'a lieu la fameuse conférence de rédaction que vous aviez exceptionnellement déplacée ce matin dans un beaucoup plus petit local. Ce qui fait que tout le monde était là, ça donnait un côté encore plus bourdonnant puisque je filais la métaphore de la ruche. Il y a quand même une atmosphère très particulière dans un journal. On a l'impression d'être là où s'écrit l'histoire. C'est intéressant pour les passionnés d'histoire que nous sommes, nous. À 14h sur Europe 1.
Oui, et surtout au Parisien, en fait. C'est une rédaction et un journal très, très vivant, qui est très attaché à l'information chaude, qui a une réactivité fantastique dès qu'il se passe quelque chose en France ou dans le monde, et qui essaye toujours de traiter l'actualité en mettant le lecteur au centre. On écrit pour quelqu'un et on se préoccupe toujours de ce quelqu'un.
Alors Jacques Lalin, c'est vous qui nous avez accueillis ce matin quand on était arrivé. Vous êtes le secrétaire général de la rédaction. Oui. Vous connaissez bien l'histoire des lieux. Et si j'en crois votre expérience, cette histoire, elle est très présente pour les gens qui travaillent ici, pour les journalistes qui chaque jour font Le Parisien. L'héritage est une chose importante apparemment.
Oui, l'héritage est une chose importante parce que Le Parisien, c'est aussi un état d'esprit qui est né à la Libération. Avec une presse nouvellement libre dont le maître mot était l'indépendance. Et vous savez que l'indépendance est une valeur chère aux journalistes. Et cette indépendance, aujourd'hui, l'ensemble de la rédaction du Parisien, les 350 journalistes qui œuvrent chaque jour à la réalisation du Parisien papier, mais aussi du Parisien.fr, eh bien, ont à cœur de mettre cette valeur de l'indépendance au cœur de leur traitement de l'information.
Le Parisien a quitté son 10e arrondissement d'origine pour venir s'installer au milieu des années, enfin dans la première moitié des années 1970, ici, à Saint-Ouen. Et nous étions ce matin en train de prendre un café, là-dehors, sur la vaste esplanade, au milieu de tous ces grands bâtiments. Et vous m'expliquez pour quelles raisons on avait installé le journal ici. Il y a des raisons quasiment stratégiques, on pourrait dire.
Hein. Absolument. À l'époque, le Parisien, lorsqu'il naît, il occupe en fait les locaux du Petit Parisien, qui était un journal créé dans les années 1870, quelque chose comme ça. Et donc, c'est effectivement ces imprimeries, au bout de quelques années, sont devenues vieillissantes. Et dans les années 70, il y a une révolution industrielle extrêmement importante en matière d'imprimerie, qui est la naissance de l'offset. Et ça, c'est la première raison qui a conduit à ce que Émilien Amaury, le propriétaire du Parisien, le premier propriétaire du Parisien, souhaite effectivement construire de nouvelles imprimeries. Et la deuxième raison, très importante et qui est encore d'actualité aujourd'hui, c'est le fait que Émilien Amaury souhaitait créer des éditions départementales. Le Parisien est un journal de proximité. Et donc, comme il souhaitait créer des éditions départementales, il lui fallait un outil industriel adapté. Et c'est la raison pour laquelle il a installé à la fois sa rédaction et ses nouvelles imprimeries ici à Saint-Ouen, aux portes de Paris.
Moi, j'aime beaucoup cette dimension matérielle des choses. Hein. Le journal, on a beau dire, rien ne remplacera jamais ce journal papier qui existe depuis la Gazette de Théophraste Renaudot. Nous en parlions dans un récent retour aux origines. Je crois que c'était la semaine dernière, de ce Théophraste Renaudot qui, dans les années 1630, sous la houlette du cardinal de Richelieu, avait créé la toute première presse en France. Bon, ces journaux papier ont subi effectivement un certain nombre de révolutions. Il y a eu évidemment à la fin du 19e siècle la révolution extraordinaire de la rotative qui a permis du jour au lendemain de multiplier les tirages par 10, par 15, par 20. C'est l'époque de la presse de masse dont vous êtes un des tout derniers représentants ici aux Parisiens. Il y a eu, vous le disiez, la révolution de l'offset. Il y en a une autre aujourd'hui, Jean Ornain, que vous là aussi, c'est un grand virage, c'est la révolution digitale.
Oui, c'est une révolution considérable. Tous ceux qui ont des enfants voient comment les jeunes aujourd'hui manient les outils numériques. Voilà, j'ai un petit garçon de 10 ans qui m'apprend à faire des choses sur une tablette. Et bah, écoutez, aujourd'hui, la plupart des foyers français ont un ordinateur. Un Français sur deux a déjà ce qu'on appelle un smartphone, ce qui permet d'aller sur Internet via un mobile. Un Français sur cinq a déjà une tablette numérique. Et ce mouvement n'est pas prêt de s'arrêter. Et c'est un des moyens d'accès à l'information. Bien évidemment, ça nous concerne.
Alors tout à l'heure, on va parler du présent et de l'avenir du Parisien. Pour l'instant, puisque nous célébrons en ce moment les 70 ans de la maison, je vous propose de nous retrouver 70 ans en arrière. L'anniversaire exact, c'était le 22 août dernier. Eh bien, retrouvons-nous, si vous le voulez, le 22 août 1944.
Du film Citizen Kane sur Europe 1, composé par Bernard Herrmann, réalisé par Orson Welles. Revenons avec vous, Franck Ferrand, à la création du Parisien.
Alors, je souris parce que, évidemment, le tout premier numéro du Parisien, le 22 août 1944, était assez volumineux. On était encore dans l'époque des journaux de grande taille. Et moi, j'ai fait une photocopie pour venir ici. Vous verriez, c'est un véritable timbre poste. Mais qu'on le veuille ou non, j'ai quand même sous les yeux la une de ce tout premier numéro de ce qu'on appelait le Parisien libéré. Vous allez très vite comprendre pourquoi, avec un grand titre qui barre en cinq colonnes et sous-titré en italique gras, la victoire de Paris est en marche. On est le 22 août 1944, ce qui veut dire que c'est quand même une prise de position très forte. On est bien là dans encore un journal militant, encore une feuille de la résistance. On va y venir dans un instant. l'instant, la victoire, la libération de Paris n'est pas faite le 22 août, bien entendu. Alors qu'est-ce qu'il y a dans ce journal? D'abord, remettons-nous peut-être dans le contexte, si je puis dire. Il y a ici, à la rédaction du Parisien, un monsieur qui vient très régulièrement encore, qui fait partie de la famille et de la maison. C'est le doyen de la rédaction, je crois qu'on peut dire son nom, à 97 ans. Il s'appelle André Lafargue et à l'époque, il était là déjà et il le raconte. Figurez-vous là ce qu'il dit. Il dit « La trêve a fait long feu ». On est donc le 22 août, la trêve, elle a 3 jours, hein, ça n'a pas duré longtemps. « Les combats ont repris dans Paris qui s'est couvert de barricades. Des chars allemands, des tigres appelés en renfort sillonnent la ville où l'on entend des échanges de tirs sporadiques. C'est dans ce climat tendu que des camelots partis de la rue d'Enghien se lancent dans les rues de la capitale en criant « Demandez le Parisien libéré ». Aussitôt, c'est le rush, des gens sortent à peine vêtus de leur immeuble et s'arrachent le journal. Il leur en coûte 2 francs, mais ils paieraient bien volontiers le double pour cette feuille grand format, barrée de ce grand titre sur 8 colonnes. J'ai dit 5 tout à l'heure, il y en a 8, je ne les ai pas comptées. Sur 8 colonnes, annonçant fièrement « La victoire de Paris est en marche ». Alors, dans ce journal, à côté du titre « Le Parisien libéré », en haut à gauche, on trouve une déclaration du général de Gaulle, président du gouvernement provisoire de la République française, devant l'hôtel de ville de Cherbourg. C'était juste la veille ou l'avant-veille. Oui, l'avant-veille, le 20 août 44 à Cherbourg. « Nous savons de quels abîmes nous émergeons, a dit le général de Gaulle, et vers quel destin nous luttons. Nous sommes tous unis dans la même volonté, celle de la grandeur française. » Et donc il y a ce titre, hein, « La victoire de Paris est en marche ». À gauche, un éditorial de 2 colonnes signé par l'OCM, une presse neuve dans une France libre. C'est fondamental. Cet éditorial, c'est en quelque sorte la pétition de principe, la profession de foi. C'est la base même de ce que va devenir non seulement le Parisien libéré, mais d'une façon générale, tous ces journaux de la libération pendant plus de 4 ans. Alors, quand je parle de l'OCM, je vais y venir dans un instant, hein. C'est cette organisation de résistance qui peu à peu est devenue l'organisation de la presse libre, justement. Pendant plus de 4 ans, nous avons dû subir l'humiliation de la France. Nous avons combattu sans relâche pour sa libération. Chaque jour, des journaux vendus à l'ennemi ont essayé d'empoisonner l'âme de la patrie, de détourner le peuple français de ses vrais devoirs, de l'entraîner sur les chemins de la trahison. La voix de la France a répondu et la presse patriote clandestine n'a cessé de clamer sa fierté résolue en dénonçant le mensonge, dit cet éditorial. C'en est fini pour les faussaires qui prenaient leur mot d'ordre dans les officines nazies. Unanime, la volonté française s'est affirmée. Et la pétition de principe est claire, hein, le Parisien libéré est né des luttes fraternellement menées, des dangers partagés, du courage souvent obscur de tant des nôtres, des heures tragiques où jamais les peines n'eurent raison de l'espérance. Je me disais en préparant cette émission que ça tombe bien qu'il y ait comme ça des anniversaires ronds, si je puis dire, 70 ans, parce que ça permet de revivre, un peu comme le faisait Marc Ferro dans son émission Histoire parallèle, de revivre en temps réel, en quelque sorte, l'évolution des choses et le temps qui s'écoule concrètement entre 2 événements. Il y a 70 ans, tout s'est précipité et cette libération de la France et cette libération de Paris a abouti notamment à la naissance de cette presse dont nous allons parler, bien entendu. Alors, il y a des informations quand même, hein, sur cette double page du tout premier Parisien libéré. On parle de l'avancée des alliés vers Paris, on parle de la 2e division blindée du général Leclerc, bien entendu. D'après la radio de Londres, dit le journal, la capitale française est perdue pour l'ennemi. Les alliés se retrouvent dans la région de Corbeil à 20 km de Paris et de Melun à 42 km. Vous voyez qu'on est assez content. On peut remarquer des photos d'ailleurs, notamment la capture d'un tank allemand dans Paris et des articles signés. Ça semble anecdotique aujourd'hui, mais c'est la première fois depuis longtemps que des journalistes à Paris renoncent au fameux pseudonyme qui était de rigueur, évidemment, pendant l'occupation. Alors, il y a d'autres journaux qui naissent au même moment, bien entendu. Combat, Libération, Défense de la France, Franc-Tireur, Le Monde un petit peu plus tard à la fin de 44. Et puis, il y a des journaux qui réapparaissent. L'Humanité, bien entendu, Le Figaro, Le Populaire, qui sont les journaux qui vont reparaître. Tous les autres, eh bien, tous les autres, ils s'enfoncent dans une sorte d'oubli, à commencer par Le Matin, Paris Soir, enfin tous ces grands journaux bien connus, Le Temps. à commencer par le petit Parisien dans les locaux duquel le nouveau Parisien, qui n'a rien à voir, va s'installer. Alors, on va revenir dans un instant sur cette organisation civile et militaire, sur cette OCM qui a donné naissance au journal. On va revenir aussi sur la figure de celui qui en est véritablement l'âme au moment de sa création. Enfin, il y a eu deux fondateurs. Moi, je pense bien sûr à Émilien Amaury. Nous allons voir dans un instant qu'il n'était pas le seul. Je vous propose de nous remettre dans ce contexte, de revivre cette espèce de saga. Hein. C'était un moment particulièrement épique de la libération que la naissance de cette nouvelle presse. Enfin, une presse qui n'avait plus de compte à rendre ni à l'occupant, ni au régime de Vichy.
Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1.
Et vous êtes toujours Franck Ferrand au cœur de la rédaction du quotidien Le Parisien à l'occasion des 70 ans du journal. Et vous êtes entouré de Jean Ornain, directeur général du groupe Le Parisien, Jacques Lalin, secrétaire général de la rédaction du Parisien, et Christian Delporte, historien des médias. Et
Christian Delporte qui nous a rejoint, qui est un habitué de cette émission, on a déjà parlé de presse ensemble au cœur de l'histoire. Je salue également l'arrivée de Thierry Borsa, qui est le directeur de la rédaction du Parisien. Je l'ai vu ce matin diriger cette conférence de rédaction et qui avait un rendez-vous avec une haute personnalité quelque part dans Paris. Il est arrivé donc en cours, mais vous allez nous parler bien entendu de ce qu'est l'information d'aujourd'hui, Thierry Borsa, dans un instant.
C'est pour un très beau sujet.
Pour le moment, nous faisons un saut de 70 ans en arrière. On est donc en août 1940. Christian Delporte, au moment de la création de tous ces organes de presse. Alors pour ce qui est du Parisien, il y a deux figures qu'il faut citer. C'est Émilien Amaury et Claude Bellanger. Alors d'abord, qui est Émilien Amaury ?
Alors Émilien Amaury, c'est l'ancien secrétaire de Marc Sangnier, du Sillon.
Du Sillon, oui.
C'est-à-dire du courant démocrate chrétien. Et puis c'est un publicitaire qui crée en 1938 l'Office de publicité générale.
C'est-à-dire que, si je puis dire, Marc Sangnier lui avait confié un rôle particulier qui était de créer une grande conférence. Hein. Il fallait des soutiens financiers pour créer une grande conférence pour la paix, à un moment où cette paix mondiale était menacée. Et il s'est rendu compte, ce jeune Amaury, il s'est rendu compte, en allant chercher tous ses soutiens, qu'en fait, il était très doué pour ça. Il avait une sorte de sens publicitaire. Hein. Donc, il va le mettre à profit. Il a créé une agence.
Une agence en 1938 qui se trouve rue de Lille, c'est important.
Eh oui.
La rue de Lille, parce que sous l'occupation, il va créer ce qu'on appelle le groupe de la rue de Lille, qui est en fait un lieu où l'on imprime la presse clandestine, Témoignages chrétiens, Franc-Tireur, Libération.
Alors, comme beaucoup de Français de l'époque, il a fait un passage par Vichy entre les deux, après ça, parce qu'il a combattu d'abord, et à sa libération.
Oui, mais comme publicitaire, on lui a confié finalement le budget du ministère de la Famille, autrement dit, de la propagande du ministère de la Famille. Il faut savoir qu'à cette époque-là, on joue très souvent le double jeu.
Bien sûr. Et en fait,
c'est bien parce qu'il était dans cette position-là qu'il pouvait relativement tranquillement imprimer
ce qu'on pourrait appeler une couverture, en quelque sorte.
C'est ce qu'on appelle une couverture.
Alors, il a un dynamisme absolument phénoménal. Il va mettre en place déjà, on peut dire bien avant que le Parisien libéré ne naisse, dans l'esprit d'Émilien Amaury, il est déjà là, en quelque sorte. Il est constitué. Il a cette idée déjà.
Oui, et puis là, c'est un publicitaire, hein, donc il sait comment vendre un journal. Et d'ailleurs, à la Libération, on lui confie la reconstruction du groupe Havas. Alors, il y a effectivement Émilien Amaury qui joue un rôle relativement effacé dans les tout débuts du journal. Il joue un rôle beaucoup plus important à partir de 1946, lorsque, de coopérative ouvrière, le journal devient une société anonyme. Et il en prend petit à petit la plupart des parts jusqu'à les dominer. Mais l'homme de presse, finalement, des deux, ils ont à peu près le même âge. En 1944, Émilien Amaury a 35 ans.
C'est Claude Bellanger, vous allez me dire. Hein.
C'est Claude Bellanger qui a 34 ans et qui, lui, a déjà, du point de vue familial, un long passé dans l'histoire de la presse. Il a un aïeul qui, sous la Révolution française, était imprimeur, déjà. Son grand-père était responsable d'un certain nombre de journaux dans le Nord, et lui-même, à 17 ans, a commencé à écrire dans les journaux comme chroniqueur théâtral au Courrier d'Angers.
Alors, quel a été le rôle de cette OCM dont je parlais ? Il faut peut-être qu'on explique ça en quelques mots, bien entendu. On ne va pas refaire l'histoire des mouvements de libération.
Oui, l'OCM est née de la fusion de deux groupes. L'un qui était dirigé par un industriel qui s'appelait Jacques Arthuis, et l'autre d'un économiste qui s'appelait Maxime Bloch-Mascart, qui va jouer un rôle important aussi dans la naissance du Parisien libéré. Et il n'y a pas de vocation à l'origine, pas de vocation de presse. Ils ne font pas de la presse clandestine. Mais ce qui va imprimer finalement cette vocation-là, c'est le groupe de la rue de Lille. Ce sont des gens comme Claude Bélanger ou Émilien Amaury qui participent notamment à la Commission nationale de la presse clandestine qui, à partir de 1943, va concevoir, imaginer la presse de la Libération, cette presse neuve dont vous parlez tout à l'heure.
Alors cette presse de la Libération et puis évidemment tout ce qui s'est passé par la suite, nous y venons dans un instant. On va voir notamment que le Parisien libéré, parce que c'était son titre à l'époque, a très vite trouvé ses marques.
Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1.
Au cœur de l'histoire, émission spéciale cet après-midi avec vous, Franck Ferrand, en direct de la rédaction du quotidien Le Parisien.
Alors vous savez, Céline, nous appelons Europe 1, mais il y a encore des gens qui disent Europe numéro 1, alors que nous sommes Europe 1 depuis 1969, pour tout vous dire. Eh bien, de la même façon, moi, dans ma famille, il y a des gens qui parlent toujours du Parisien libéré. Depuis quand est-ce que c'est devenu le Parisien tout court, Thierry Borsa ?
Le Parisien a changé de nom en même temps qu'il a changé d'ailleurs de logo et de présentation de sa une, puisque je crois que cette date a correspondu à l'arrivée de la couleur à la une du journal. Mm-hmm. C'était en janvier 1986.
Oui, donc ça commence à faire un petit bail, évidemment. Je compare un peu ces deux maisons, Europe 1 et Le Parisien, pour des raisons d'époque, justement. Vous fêtez vos 70 ans, nous, très bientôt, là, dans quelques mois maintenant, on va célébrer nos 60 ans. On peut dire que le paysage médiatique de la France, ce qui structure les grands médias français, est né dans les lendemains de la Seconde Guerre mondiale, en fait. Et ça a joué un rôle sans doute très important dans leur identité, dans leur personnalité, dans leur façon de traiter l'information.
C'est vrai que à la fois les titres de presse ou le nom d'un certain nombre de stations de radio, on pourrait les appeler aussi, finalement, ça suit un certain nombre de générations. C'est-à-dire que tous ceux qui s'intéressent à l'information, à l'actualité depuis maintenant 60 ou 70 ans ont effectivement en tête ces grands noms de rendez-vous, que ce soit des rendez-vous tout au long de la journée ou des rendez-vous quotidiens avec des journaux papier. Et effectivement, ça génère forcément un attachement à cette manière de recevoir de l'actualité, à cette manière de s'informer.
Alors, on a l'impression, Christian Delporte, que tous ces journaux étaient, je viens de parler de ces 9 journaux hein, qui naissent ou renaissent à la Libération, on a l'impression que c'était d'abord des organes de presse parisiens. Et le Parisien libéré, le tout premier, forcément.
Oui, ils le sont, mais parallèlement, naissent un peu partout en France, issus de la presse clandestine, des quotidiens qui, à condition qu'ils aient fait paraître leur numéro clandestin avant le 1er janvier 1944 pour qu'il n'y ait pas de résistants de la dernière heure. Donc ces journaux peuvent avoir pignon sur rue et on en a un petit peu partout en France à ce moment-là. Mais c'est vrai qu'il y a encore cette grande division entre presse quotidienne nationale à influence nationale ou presque et une influence beaucoup plus restreinte pour les quotidiens régionaux.
Alors, est-ce qu'il y a encore, dans la rédaction d'aujourd'hui, Jacques Lalin, est-ce qu'il y a encore des souvenirs de l'époque où le Parisien était dans Paris, si je puis dire, dans son 10e arrondissement ? Est-ce que...
Écoutez, des témoignages vivants, mis à part André Lafargue, que vous citiez tout à l'heure, qui est toujours, en fait, journaliste au Parisien, toujours chroniqueur de théâtre et qui continue de venir chaque jour avec sa voiture au journal. Des personnes vivantes de cette époque-là, il n'en existe plus. Évidemment, il y a beaucoup de souvenirs parce que beaucoup de salariés ont une connaissance rapportée des faits de cette époque. Ce qui est important, c'est l'esprit qui animait le Parisien libéré lors de sa création, qui est toujours vivace au sein de cette rédaction. Ce que je vous disais, c'est que lorsque une presse neuve existe, où on sort d'années de propagande, de privation de liberté, de privation d'information, il y a, je veux dire, une soif immense d'information vraie. Excusez-moi ce pléonasme qui existe. Et c'est vrai que cet esprit-là, aujourd'hui, il existe aux Parisiens. Il existe pour deux raisons. Parce que le Parisien, comme vous le savez, appartient toujours à la même famille. Hein, il a appartenu à Émilie Amaury. Ensuite, ça a été Philippe Amaury. Aujourd'hui, c'est Marie-Odile Amaury. Marie-Odile Amaury qui est donc patronne d'un groupe de presse à 100%. Et aujourd'hui, Le Parisien est le seul titre de la presse française qui est détenu par un véritable éditeur de presse. Donc ça, c'est quelque chose, c'est un gage d'indépendance extraordinaire. Et ce gage d'indépendance, eh bien évidemment, il s'est transmis au cours des générations. Et aujourd'hui, il est vivace dans la rédaction du Parisien.
Jean Ornain, cette dimension familiale est importante, en effet, dans la... Dans l'identité
elle
du journal
est, effectivement, Le Parisien, comme l'a dit tout à l'heure Jacques Lalin, c'est la saga Amaury.
Et il n'a pas toujours d'ailleurs été très facile. Hein. Il y a eu une guerre de succession.
Elle a traversé beaucoup de situations. Voilà, il y a eu des temps calmes, il y a eu des temps agités, il y a eu des temps de révolution numérique. Mais c'est une famille qui a toujours tenu la barre. Et je pense que si Le Parisien est le succès qu'il est aujourd'hui, on doit beaucoup à cette longévité, à cette persévérance d'une famille.
C'était Émilien ou Philippe qui a décidé le déplacement à Saint-Ouen et l'installation
C'était Émilien, Amaury.
Oui. Et alors ça a été une période assez troublée de la vie du journal. On a même connu l'époque où Le Parisien faisait la une des autres journaux parce qu'il était en grève. Ça, c'était l'époque des années 75, 76. Il y avait de grandes perturbations, une grande agitation sociale à l'époque ici.
Il y a eu un conflit, effectivement, très long. Il a duré plusieurs mois.
Oui.
29 mois, dont le groupe a su se relever et se sortir avec beaucoup de courage et de ténacité. Mais c'est vrai qu'il a marqué l'histoire du Parisien et on en parle toujours aujourd'hui.
D'ailleurs, je vous propose d'entendre une archive Europe 1. On était donc en 1976 et c'est le moment où les locaux qui avaient été occupés sont libérés, je ne sais pas comment dire, par la police. Je vous propose d'écouter ce document Europe 1.
J'ai simplement vu très progressivement la rue s'emplir à l'extrême côté rue d'Hauteville et côté Faubourg Saint-Denis. Et en quelques instants, les voitures en stationnement ont été dégagées et un camion a défoncé la façade et la police est rentrée à l'intérieur.
C'était à quelle heure?
Oh, il y a 10 minutes, un quart d'heure.
Et est-ce qu'il y avait de la résistance de la part des gens qui occupaient l'imprimerie?
Absolument pas, un grand silence. Tout était fermé, aucune réaction, aucun cri, on aurait cru qu'ils occupaient un local vide.
C'est ça, et l'opération s'est passée vraiment très discrètement?
Ou dans un silence complet. On a à peine ouvert la fenêtre, on avait la police à droite et à gauche, sans sirène, sans rien.
Et est-ce qu'il y a déjà des gens qui sont sortis de l'imprimerie?
Ah ben, quelques civils sortent, hein.
C'est-à-dire des gens qui occupaient le Parisien?
Je pense que ce sont des gens qui occupaient. Ils sortent très calmement. Pour l'instant, il n'y a pas d'heure.
Alors, c'était le 6 décembre 1976, donc l'évacuation, voilà le terme exact, de l'imprimerie du Parisien libéré. Et le témoin, on était au téléphone rouge d'Europe 1 à l'époque, hein, le témoin est au micro de Gérard Fusy. Je dis d'ailleurs au micro d'Europe 1, et je viens d'avoir dans l'oreillette Fabien Namias, le directeur de notre rédaction, qui salue d'ailleurs ses confrères du Parisien, et qui me précise, il a raison de le préciser, parce que ça a dû faire sursauter un certain nombre de nos auditeurs, que notre nom a été définitivement changé, non pas en 69, mais beaucoup plus récemment, en 1983, me dit-il. Alors, 1976, donc, ce gros conflit, on a craint, à un moment, Jacques Lalin, que Le Parisien ne s'en relèverait pas, même. Ça a été difficile, ça.
Oui, pour comprendre ce conflit, il faut, je veux dire, se replacer dans le contexte de l'époque. Lorsque Le Parisien libéré est né, Émilien Amaury, en fait, travaille la main dans la main avec le livre CGT. On est, je veux dire, on a une presse résistante. Le Parti communiste a joué un très grand rôle dans, effectivement, la naissance de cette presse résistante. Et Émilien Amaury, qui est président de la Fédération de la presse, je veux dire, de l'après-guerre, eh bien, évidemment, travaille la main dans la main avec le livre CGT, à qui l'on concède le monopole de l'embauche dans les imprimeries. Et les années passant, au bout d'une quinzaine d'années, Émilien Amaury, c'est un caractère fort. C'est une personne qui s'est fait lui-même. Il faut savoir que son père, il est né à Étampes. Son père est cantonnier, sa mère est femme de ménage. Et qu'il est patron d'une petite entreprise à 23 ans et qu'il devient patron de presse à 30 ans. Donc c'est véritablement, je vais dire, un homme qui se fait tout seul un self-made man. Et donc, à un moment donné, quand il devient propriétaire du Parisien, il veut être maître chez lui et pouvoir embaucher qui il veut et les payer comme il l'entend. Et évidemment, je veux dire, dans les années 70, il va se heurter de plein fouet, je veux dire, au livre CGT, qui ne va pas vouloir effectivement se plier aux conditions d'Émilien Amaury, et donc un conflit, je veux dire, extrêmement violent. Le conflit va durer 3 ans, à faire 3 morts. D'accord. Le Parisien qui vendait 900 000 exemplaires, au bout de 3 ans, vend 300 000.
Oui, voilà. Et donc, 900 000 voilà, exemplaires, voilà. Ça laisse entendre quand même qu'on était en face d'un succès extraordinaire. Il y a eu les grandes années du Parisien libéré, il faut dire, Christian Delporte, hein, les années 50-60.
Oui,
fait,
c'est hein. Ça. À ce moment-là, il y a deux grands journaux populaires. Oui. Il y a François et il y a Parisien libéré. Mmh. Les années 50, les années 60, c'est le grand succès du Parisien libéré. Il le doit notamment la diversité de ce qu'il produit chaque jour, à l'inventivité également d'Amaury, avec les grands concours notamment du Parisien, qui chaque jour augmente pendant la durée du concours le public de 300 000 lecteurs, c'est quand même assez extraordinaire. Et puis les grands événements sportifs, hein, le Paris-Strasbourg à la marche, et puis bien sûr le Tour de France qui a été relancé après-guerre par le Parisien.
Alors après, il y a ce passage à vide, on va dire, de la fin des années 70, début des années 80, et puis le 1er juin 1983, lancement d'une campagne publicitaire qui reste présente à l'esprit, je suis certain, d'un grand nombre de nos auditeurs. Ni gaucho, ni facho. Et puis alors, il y a d'autres affiches qui disent ni enchaîné, ni enragé. Et ni politique, ni polémique. Ika, on voulait en quelque sorte repositionner le journal là au début des années 80.
Oui, alors il avait quand même beaucoup changé. Il faut pas oublier qu'il est devenu, à partir des années 60, avant tout un quotidien régional d'Île-de-France. Oui. C'est ça qui a fait sa force. En partant de la réalité. La réalité, lorsque il y a le tournant de la régionalisation du journal, c'est que 80% du public est parisien. Et il est parisien et il est populaire. Ça, c'est extrêmement important. Et de ce point de vue, Amaury a repris un peu la recette qui avait fait le succès de l'autre grand, plus grand journal du monde à l'époque, qui était Le Petit Parisien.
Le Petit Parisien, oui, qui était une espèce de monstre de la presse, si on peut dire. Thierry Borsa, dans les années 80, c'est quand même un nouveau Parisien qui naît. Vous parliez tout à l'heure de 1986 avec l'arrivée de la couleur, un autre format aussi, petit à petit.
Alors le format a été antérieur à l'arrivée de, à l'arrivée de la couleur. Oui. Le passage du grand au petit format s'est fait bien avant, mais
65.
Comme ça vient d'être souligné, ce qui a beaucoup marqué les années 80, c'est le grand développement des éditions régionales du Parisien et du coup l'affirmation effectivement d'une information de proximité par un journal qui est passé progressivement de populaire à très grand public, puisque en fait il a aussi beaucoup accompagné et ça reste sans doute toute la force de ce titre. Ce qui est probablement d'ailleurs une des explications pour lesquelles il a retrouvé un large public après le conflit qui avait beaucoup beaucoup diminué sa diffusion, c'est qu'il a toujours accompagné les mutations de la société française. Il les a bien observées, il les a aussi accompagnées. Donc de journal populaire qui était très très lié à une division des classes sociales, il y avait la bourgeoisie, il y avait les ouvriers, on est passé dans les années 70-80 à quelque chose de différent, avec une montée des classes moyennes, avec une montée des employés, et c'est cette évolution-là de la société que le Parisien a accompagné en s'appuyant sur la proximité géographique avec les éditions départementales en Île-de-France, en s'appuyant aussi sur l'idée de donner une information au plus proche des centres d'intérêt de ses lecteurs. Et le Parisien, toujours, et en tout cas depuis ce moment-là, s'est toujours attaché à beaucoup respecter les attentes de ses lecteurs et son lecteur en général, d'ailleurs, de le mettre au cœur de son offre éditoriale.
Alors on va revenir sur la période plus récente dans un instant. Comme disait une publicité au cinéma il n'y a pas si longtemps, le Parisien, on le préfère en journal.
Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1.
L'Humanité, Le Figaro, François.
Les travailleurs ont le droit de savoir.
Qu'un vendeur a une phosphate Rio Tinto.
La princesse portait un nouveau chapeau.
Zizi placé 17, gagnant 22.
La belle voix de la grande Édith Piaf sur Europe 1 avec un extrait du kiosque à journaux. Et vous êtes toujours Franck Ferrand en direct de la rédaction du Parisien à l'occasion des 70 ans du quotidien avec vos invités Thierry Borsa, directeur de la rédaction du Parisien, Jacques Lalin, secrétaire général de la rédaction, Jean Ornain, directeur général du groupe Le Parisien et Christian Delporte, historien des médias.
Vous me disiez en préparant cette émission, Christian Delporte, qu'il y a des journaux qui ont tendance à donner le là en France, en quelque sorte, hein, qui vont plus loin que d'autres. Vous citiez notamment Le Monde et Le Parisien, justement.
Oui, il y en a deux. Hein. Et depuis des années, on s'aperçoit que les informations qui émergent dans Le Parisien un jour, plusieurs jours après, se retrouvent dans la grande presse nationale ou régionale.
Comme si le journal prenait le pouls du pays un peu, c'est ça l'idée ?
Absolument. En tout cas, on voit que c'est un journal inventif et qui va chercher l'information qui ensuite peut être développée par d'autres. Mais en tout cas, c'est un journal marquant que l'on a sur la table de toutes les rédactions.
C'est en tout cas une pépinière, ça on peut le dire. Un grand nombre de signatures qui aujourd'hui font les beaux jours d'un certain nombre d'autres journaux ou de sites internet, par exemple, Jacques Lalin, se sont formés ici.
Oui, effectivement, le Parisien, c'est un creuset de talents journalistiques, excusez-moi cette expression, mais effectivement, quand on voit le nom des personnes qui sont passées par le Parisien, le plus éminent, le plus connu, c'est Jean-Michel Aparti, qui était ici au service politique il y a une vingtaine d'années. Et je me souviens très bien de Jean-Michel Aparti, ici, à l'époque, il était délégué du personnel et prenant position lors d'Assemblée Générale de la rédaction. C'était quelque chose de très animé. Mais nous avons aussi Éric Revel, qui est aujourd'hui le patron de LCI, Dominique de Montvallon, qui est un des directeurs de la rédaction de L'Opinion, Bruno Jeudy, qui est rédacteur en chef au journal du Dimanche. Évidemment, Le Parisien, c'est l'école du terrain. Comme le rappelait Thierry Borsa tout à l'heure, nous sommes un journal où on allie à la fois la proximité géographique et la proximité d'intérêt. Et pour qu'en fait, on puisse témoigner de façon fidèle de ce que vivent les Français, il faut être sur le terrain. Et la meilleure école pour les journalistes, c'est quand même de faire du reportage et de faire du terrain. Ce que leur offre Le Parisien.
Je me disais, Thierry Borsa, que tout a quand même bien changé en 70 ans, parce que c'est amusant, ces anniversaires, ça permet évidemment de donner toute l'épaisseur, toute la perspective historique d'une institution comme celle-ci, parce qu'on peut parler d'une institution dans le cas d'un journal comme Le Parisien, mais la façon de traiter l'information, la façon de la présenter, tout ça a beaucoup changé en 70 ans.
Alors, ce qui a beaucoup changé, c'est surtout la notion de temps dans l'information. C'est-à-dire que pendant, encore il y a quelques décennies, les quotidiens étaient en mesure d'apprendre un certain nombre de faits à leurs lecteurs et étaient dans la révélation simplement de ce qui se passait. Voilà. Aujourd'hui, il est évident qu'on ne peut pas se contenter de raconter ce qui se passe. En général, tout le monde le sait en temps réel. Il y a tout un tas de supports d'information.
et les chaînes d'info en temps réel. Oui.
Donc, il est encore plus nécessaire aujourd'hui de savoir ce que sont les vraies préoccupations du public en attente d'information, de ce que sont ces questionnements, d'être capable de révéler, d'être capable d'être utile en termes d'informations pratiques et surtout, d'être, je le redis, dans un registre de proximité, c'est-à-dire d'être très attentif à ce qui fait le quotidien, ce qui fait la vraie vie de tous les gens et ce qui peut leur permettre aujourd'hui de mieux comprendre, de trouver de nouveaux repères, de voir un peu les évolutions de cette société dans laquelle ils vivent et dont ils comprennent pas forcément toujours tous les mouvements. Mais si je peux permettre juste une petite remarque pour en revenir à l'histoire. On évoquait tout à l'heure le premier numéro du Parisien libéré qui est titré « La victoire de Paris est en marche ». Oui. Si je peux me permettre, c'était déjà une capacité pour ce journal à prendre un certain hauteur, parce que finalement, le titre du jour, c'était peut-être simplement « La deuxième DB est à 40 km de Paris ». On avait de la hauteur, on avait du recul et on avait la capacité finalement à décrypter, voire à donner une vision de ce qu'allait être les jours suivants.
Que voulez-vous, c'est dans les gènes de la maison. En assistant ce matin à votre conférence de rédaction, j'ai vu à quel point, justement, vous étiez très attentif à ce qui fait l'esprit du temps, pas seulement l'actualité du jour, mais ce dont les gens parlent en priorité, ce qui les intéresse, etc. J'ai vu que c'est ce qui vous, en tout cas vous, c'est ce qui vous fait vibrer, visiblement. Hein. Vous avez tendance à mettre ça en avant, en fait.
Ah bah, je pense que c'est absolument essentiel, puisqu'on est en plus dans un univers où tout le monde a facilement accès à toutes les informations, donc il faut vraiment arriver à capter un peu l'humeur du jour. On se lève le matin, on se dit, ben voilà à quoi je pense, voilà ce qui me préoccupe, voilà ce qui m'intéresse. Voilà vers où va ma curiosité. Et notre rôle à nous, aux Parisiens, il est d'apporter des réponses, il est d'apporter des satisfactions, il est d'apporter des informations, il est d'apporter des révélations sur tous ces sujets.
Est-ce que les considérations d'ordre technique ont joué un rôle sur la façon de traiter l'information ? Vous bouclez très tard, vous, ici, notamment. Vous êtes, je pense, le journal qui boucle le plus tard.
On a la possibilité d'intervenir sur les toutes dernières éditions imprimées du Parisien, c'est-à-dire l'édition de Paris, jusqu'à pratiquement 1h du matin.
Oui, c'est ça. Donc ça vous permet de tenir compte d'un certain nombre d'informations qui peuvent arriver même dans le cours de la soirée, alors qu'un certain nombre de vos confrères auront forcément à ce moment-là 24 heures de retard.
Absolument.
Est-ce que vous avez vu des changements avec, notamment, on parlait d'offset tout à l'heure, maintenant on va beaucoup plus loin, on fait de la composition en temps réel également, les journalistes préparent leurs propres articles, enfin tout ça, il y a moins de monde tout simplement pour fabriquer un journal aujourd'hui qu'il y a ne serait-ce que 25 ans.
Il y a moins de monde pour fabriquer un journal, en revanche il y a un registre sur lequel il ne pourra jamais y avoir beaucoup beaucoup moins de monde, c'est sur la collecte et le traitement de l'actualité.
Oui.
Alors effectivement, ensuite, au fil des ans, les processus de réalisation, les processus de fabrication du journal se sont automatisés, se sont simplifiés, se sont modernisés. Voilà, mais le grand changement technologique que nous connaissons depuis maintenant une petite dizaine d'années, c'est l'arrivée du digital, l'importance de l'information sur les supports numériques. Et ça, effectivement, ça apporte un vrai changement dans la vie et dans le fonctionnement au quotidien de la rédaction.
Alors Jean Ornain, il y avait un Parisien, maintenant il y a une Parisienne, vous me voyez venir, il y a un certain nombre d'autres titres qui accompagnent, il y a un magazine aussi tout simplement.
Il y a un magazine qui est né au mois de septembre 2012, une Parisienne, un Parisien économie tous les lundis. Donc c'est vrai que c'est une offre qui s'est considérablement développée.
Alors quel est le but justement
aujourd'hui
de...
en France, l'édition nationale, ouais. qui vend 140 000 exemplaires tous les jours et qui nous permet aujourd'hui de friser les 400 000 exemplaires vendus.
Et d'ailleurs, quand on parle aux gens, je me suis rendu compte de ça, dans les régions, ils achètent aujourd'hui, et vous dites le Parisien, et souvent ils ne font pas le rapprochement. C'est assez amusant ça.
C'est exact. C'est une information qui est du même type. Le contenu est le même, mais effectivement, le rapprochement n'est pas toujours fait.
De quoi sera fait l'avenir de cette maison ?
L'avenir sera fait d'une continuelle adaptation à notre temps et à nos lecteurs. Thierry Borsa l'a rappelé tout à l'heure, ce qui est cœur pour nous, c'est nos lecteurs. Nos lecteurs vont de plus en plus s'informer sur des supports digitaux. Et comme nous, on est attentifs à leurs besoins, à leurs usages, eh bien, on va les accompagner. Donc notre futur, il est bien évidemment toujours papier. Encore une fois, 400 000 exemplaires, c'est un chiffre qui va rester encore élevé. Et après, notre avenir, il est également digital.
Merci beaucoup de nous avoir si bien reçus ici, au cœur même de la rédaction du Parisien. Merci à vos équipes pour leur très grande hospitalité. Merci à la mienne, l'équipe d'Au cœur de l'Histoire. Merci aux équipes techniques d'Europe 1 que je n'ai même pas eu le temps de féliciter, de complimenter l'autre jour à Lille, sous la direction de David Vigery. Merci à tous. C'était une émission dont nous nous souviendrons.
Europe 1, au cœur de l'Histoire.
Retour aux origines.
Et vous répondez cet après-midi, Franck Ferrand, à la question de Johan. Il nous l'a envoyé via la page Facebook de l'émission. Johan aimerait savoir pourquoi en imprimerie, l'encart où l'on désigne le nom de l'éditeur et les différents collaborateurs s'appelle l'ours.
Et vous mesurerez là, Céline, tout l'à-propos de l'équipe d'Au cœur de l'Histoire qui me donne tous les jours le retour aux origines le mieux adapté, vous avouerez quand même.
C'est vrai, c'est vrai.
Alors, l'ours, oui, vous savez, c'est cet encadré ou cette colonne dans lequel figure le nom des responsables du journal, des rédacteurs, des contributeurs, celui aussi de l'imprimeur, la date de parution, le prix de vente, etc. Alors pourquoi ce terme d'ours ? Deux explications possibles. Il y en a une qui viendrait du nom qu'on donnait aux imprimeurs dans le courant du 19e siècle. Le mieux pour vous en parler, c'est de céder la parole à un grand journaliste du 19e siècle, à Balzac en personne, qui nous dit dans Les Illusions perdues, à propos d'un de ses personnages, il s'appelle Séchard, je cite « Ce Séchard était un ancien compagnon pressier que dans leur argot typographique, les ouvriers chargés d'assembler les lettres appellent un ours. Le mouvement de va-et-vient qui ressemble assez à celui d'un ours en cage par lequel les pressiers se portent de l'encrier à la presse et de la presse à l'encrier leur a sans doute valu ce sobriquet. En revanche, les ours ont nommé les compositeurs des singes à cause du continuel exercice que font ces messieurs pour attraper les lettres dans les 150 petites cases où elles sont contenues, 152 petites cases exactement, pour avoir toutes les lettres dans toutes les cases et dans toutes les tailles possibles. Donc voilà une explication. Il y a une autre explication possible. est-ce que j'oserais vous dire qu'elle me convainc un peu moins en ce qui me concerne, elle attribue l'origine de cette appellation d'ours au possessif anglais ours. Vous savez, ours, ce sont les nôtres. Alors, on peut dire effectivement un peu comme à la manière d'un générique ou à la fin d'une pièce de théâtre, eh bien, voici les nôtres, voici ceux qui ont participé à ce numéro, ours. Une façon donc de désigner toutes les personnes qui ont pris part à la fabrication du journal et qui ainsi peuvent être citées dans l'encart en question. Est-ce que l'ours d'un journal est lié à cette explication anglaise, ours, ou bien à l'explication balsacienne? Pour bien des raisons, vous me permettrez de préférer l'explication balsacienne.